Ce matin, mon message est, il y a quelques temps de ça, dans ma lecture quotidienne, je suis arrivé dans un chapitre du livre des Actes, et puis j'ai cette pensée-là a commencé à s'imposer à moi. Alors, ce sera mon message de ce matin. Et le titre que j'y ai donné s'inspire du thème que le pasteur Jean-Claude a développé ces derniers dimanches, le chemin divin. Mais ce matin, on va aller dans la maison d'un homme qui marchait sur le chemin divin. Et cet homme-là, on le retrouve au chapitre 10 des Actes, à partir du verset 1er. Et voici ce qu'on y lit. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille, des regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corvoyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Voilà. Dieu se révèle, je crois, à ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur, n'est-ce pas? Il veut se révéler. Et sa bénédiction s'étend sur son entourage. Corneille avait un soldat pieux attaché à sa personne. Quand j'ai commencé à découvrir la Bible, que je suis tombé sur ce nom de Corneille, je me sens un peu curieux qu'un homme s'appelle Corneille. Quelqu'un qui s'appelle Corneille ici? Personne? Okay. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que son nom romain, c'est Cornelius. Et les traducteurs de la Bible en français ont traduit Corneille probablement parce que le nom de Corneille, notre famille Corneille, existe en France. Il y avait un écrivain au 17e siècle qui s'appelait Pierre Corneille. Alors, ils l'ont traduit Corneille. Mais dans d'autres places du Nouveau Testament, les noms latins sont restés, comme Gaius, Andronicus, Félix, par exemple, c'est latin aussi. Alors, et dans les Bibles anglaises, Cornelius, c'est bien Cornelius, c'est pas Corneille. Ah ben, parce que Corneille, vous connaissez, la seule Corneille que je connais, moi, c'est celle qu'on entend, qu'on voit. Alors, donc j'ai découvert un nouveau Corneille dans cela. Dieu se révèle à ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Voilà un homme, un centenier. Un centenier, c'était le chef, le leader d'une centaine d'hommes dans l'armée romaine. Donc, un homme qui avait une certaine responsabilité. Mais il dit que c'est un homme qui était pieux et qui craignait Dieu. Et quand la Bible parle d'un homme qui craignait Dieu, c'était un homme qui était attaché au Dieu des Juifs, le Dieu des Hébreux, l'Éternel. C'était un homme, donc, qui croyait en Dieu tel que révélé aux enfants d'Israël. Un homme qui était pieux, donc, on voyait qu'un homme qui était attaché à Dieu, il connaissait ce Dieu-là. Un homme juste, un peu plus loin au verset 22, il est dit que c'était un homme juste de qui on rendait un bon témoignage. Par son comportement, par sa conduite envers son entourage, on rendait de lui un bon témoignage. Ça ne veut pas dire que Corneille était parfait. Il devait avoir des manquements lui aussi. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'était un bon croyant. Un homme qui, avec toute sa maison, craignait Dieu. Sa maison, c'est sa famille. Quelle bénédiction, frères et sœurs, quand toute notre famille suit le Seigneur, n'est-ce pas? Quelle bénédiction! Cet homme-là avait ce privilège de voir donc sa femme, ses enfants, c'est pour combien il y en avait, qui craignaient le Seigneur aussi, qui avaient la foi en Dieu eux aussi. Un homme qui faisait beaucoup de monde, donc un homme qui était généreux envers les gens dans le besoin. Imitons Corneille aussi, à être généreux envers les gens dans le besoin. Mais un homme qui ne cessait de prier Dieu. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faisait sa journée longue, parce que s'il y avait une centaine d'hommes sous sa responsabilité, il y avait des choses à voir. Mais un homme qui s'attachait à Dieu, chaque jour, qui prenait le temps chaque jour avec Dieu, et ce jour-là, en particulier, à 3 heures de l'après-midi, il était en prière. Pourquoi? Parce qu'à 3 heures d'après-midi, dans le temple à Jérusalem, lui demeurait à Césarée. Mais dans le temple à Jérusalem, on offrait le sacrifice, l'holocauste. Un agneau qu'on offrait à Dieu. L'holocauste, un sacrifice de consécration volontaire. Et Corneille s'unissait donc de cœur avec ce sacrifice, voulant s'offrir lui-même à Dieu. Et à cette heure-là, un ange lui est apparu. Et on connaît maintenant la suite de l'histoire. En fait, Corneille vivait dans une société romaine, l'Empire romain, qui était idolâtre et immorale. Il y avait plein de dieux dans l'Empire romain. Mais Corneille, ce Romain-là, avait renoncé à cela parce qu'il avait découvert le Dieu des Hébreux. C'est bien mieux, frères et sœurs. Il y a beaucoup de dieux dans notre monde aujourd'hui. On peut connaître le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Il a servi lui seul. Il y en avait assez d'immoralité qui l'entourait. Il y avait toutes sortes d'idoles et des choses immorales qui se produisaient. C'est détourné de cela. La Bible dit quoi? Si vous cherchez l'Éternel, vous le trouverez. Amen. Elle dit également, heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si nous cherchons Dieu, on va connaître le bonheur aussi. Béni soit Dieu, frères et sœurs. Corneille avait trouvé mieux dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? Un Dieu unique et vrai. Il avait trouvé des valeurs morales bien établies. Un code de conduite remarquable. Une conduite sainte, des paroles sûres des prophètes, des chants, des prières. Et il voyait un peuple hébreu qui aimait le Seigneur et qui le servait aussi. Il avait cru en Dieu, comme le Dieu qu'il connaissait, que les Juifs connaissaient à cette époque-là. Et il y avait une influence sur sa famille, une influence sur son entourage, un soldat pieux, entre autres, qu'il est dit ici. Et en plus, il était au milieu d'une grande troupe de soldats, parce qu'il y a une cohorte de 600 soldats. Donc, il y avait 5 autres centeniers avec qui Corneille peut avoir une influence sur ces gens-là. On voit donc que son comportement, sa conduite, sa foi peut avoir un impact sur les autres. Mais ce qui est plus merveilleux, c'est que Corneille était connu au ciel. Alors qu'il était en prière, Dieu a dit à son ange, « Allons voir Corneille à Césarée. » Il était connu au ciel. On est connu au ciel, frères et sœurs. Et Dieu peut se révéler à chacun de nous aussi, de manière particulière. Et l'ange l'a appelé comme il nous appelle à chacun de nous aussi. Dieu veut se révéler davantage. Moi, j'ai découvert une chose après plus de 40 ans de vie chrétienne. Je n'ai pas fini de connaître Dieu. Vous autres? On n'a jamais fini. Et je veux davantage le connaître encore. Que c'est merveilleux, sa parole de Dieu nous révèle encore qui il est. L'ange lui dit quoi? Tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Pas parce que Corneille méritait ça. Elles étaient simplement le témoignage de son attachement à Dieu. Et voici Corneille, tu cherches Dieu de tout ton cœur. Et voici maintenant, envoie des hommes à Joppé. Va, envoie chercher Pierre. Et Pierre va venir et vous révéler autre chose. Tes prières, tes aumônes, sa piété, son amour du prochain. Voilà ce qui était Corneille, frères et sœurs. J'aime bien ce verset d'Isaïe 64 qui dit ceci. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Dieu va à la rencontre de ceux qui cherchent à le connaître, ceux qui marchent dans ses voies, se souviennent de lui. Donc, Dieu vient à notre rencontre, frères et sœurs. Alléluia! Mais Corneille, c'est un chef de famille. Et j'aimerais pour quelques instants parler de la famille. De ceux et celles qui sont chefs de famille, hommes ou femmes, famille monoparentale ou en couple. Je crois que tout parent chrétien désire que son enfant ou ses enfants marchent dans les voies de Dieu, n'est-ce pas? Pas beaucoup d'amen? Oui, oui, je présume que oui. Corneille était un homme très occupé par le travail, mais pas trop occupé pour servir Dieu. Pas trop occupé pour chercher Dieu. Et je sais que nos horaires de travail, pour ceux qui sont au travail, c'est souvent très accaparant. Surtout quand, dans un couple, les deux travaillent, les horaires sont très serrés et tout ça. Mais ne soyons pas trop occupés au point de négliger la famille. Cherchons, demandons Dieu la sagesse, trouver le temps avec les nôtres aussi. Parce qu'envers nos enfants, il y a trois choses dont j'aimerais parler ce matin. Comme chef de famille, on veut leur enseigner certaines choses, on veut leur aider et leur servir d'exemple. Qu'est-ce qu'on peut leur enseigner? Bien des choses. La première chose, on peut leur enseigner l'importance de chercher à connaître Dieu. Est-ce que nos enfants nous voient ou qu'ils savent que nous prions? Est-ce qu'ils nous voient en train de lire notre Bible ou qu'ils savent au moins que nous la lisons? Est-ce que nos enfants nous voient aller à l'église chaque dimanche ou au moins chaque semaine? Est-ce qu'ils savent que nous donnons la dîme de nos revenus? que nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, aux missions et autres. Ça, c'est un témoignage à leur rendre, que pour nous, c'est important dans notre vie. Que nos enfants puissent le voir. Est-ce qu'on parle à nos enfants de ce que nous apprenons ou de ce que Dieu a fait pour nous? Je me suis rappelé, il y a à peu près 2 ans de ça, mon fils Étienne m'appelle un jour, il demeure à Montréal, pour m'annoncer qu'il y avait une promotion au travail. Ah ben, j'ai dit, tiens, ça tombe bien, je priais justement pour ça. Je crois aussi que Dieu a exaucé cette prière, et que oui, il fait un bon travail, tant mieux, merci. Je viens féliciter, mais c'est bon de leur dire que nous prions aussi pour eux, que Dieu peut intervenir dans leur vie. De renseigner le respect des autres, le respect des autorités, le respect des voisins, de la parenté, des membres de l'Église. C'est important de renseigner ça. Comment? Par ce que nous disons des autorités, des voisins, de la parenté et des membres de l'Église. Si nous critiquons, voilà ce qu'on va leur enseigner. Mais si on leur enseigne que nous respectons ces gens-là, que nous prions pour eux, qu'ils sont importants aux yeux de Dieu, ça fait toute une différence. Et nos paroles en disent long. Le Seigneur dit quoi? Que la bouche exprime l'abondance du cœur. Alors, comment je parle de mes voisins? Comment je parle des autorités? Comment je parle des gens qui m'entourent? Ça va en dire long sur comment je les considère. Et Dieu veut nous rappeler de prier pour ces gens-là. Il y a un peu plus qu'un an de ça, Dieu m'a donné un songe une nuit. Et dans le songe, j'ai vu le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui demeurait à côté de chez nous, dans un duplex au 2e étage, qui était à loyer. Vous savez ce que j'ai compris? Dieu montrait sa condition spirituelle. Quoiqu'il est un homme très riche, il peut m'acheter 100 fois, un homme avec une haute position, Dieu m'a rappelé qu'il a besoin de prière aussi. Sa condition spirituelle. Et si Dieu nous voit montrer la condition spirituelle de tous les gens en autorité, frères et sœurs, on prierait souvent pour eux. Ils en ont bien besoin. Par la façon dont on traite les voisins, l'Église. On veut enseigner l'honnêteté aussi avec l'argent. Et ça, c'est important. Que nos enfants voient que nous sommes droits avec notre argent. Que nous payons ce que nous devons payer, qu'on ne cherche pas à faire de détours, des choses malhonnêtes, mais qu'on veut être droit dans toutes choses. Dès qu'ils sont jeunes, on leur enseigne ça. Et en grandissant, ça va leur rester ça. L'honnêteté en disant toujours la vérité, même si c'est embarrassant. Des fois, nous-mêmes, on pourrait être tenté de faire un petit détour. Non, une demi-vérité, c'est un mensonge. Honnêteté envers les employeurs, envers les professeurs. Deuxième chose, on veut leur aider à découvrir leur voie. Bien sûr, on veut leur aider surtout à découvrir le chemin du Seigneur, s'ils n'ont pas déjà découvert, n'est-ce pas? On veut les instruire dans cela, leur montrer le chemin à suivre. Instruit l'enfant de la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais des fois, ils font des détours, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas. Ils font des détours. Découvrir leur place dans la société. Ils aident à découvrir qui ils devraient fréquenter et qui ne devraient pas fréquenter. Qui ils peuvent marier. Les accepter avec leur personnalité et leurs intérêts. La troisième chose, de servir d'exemple. Et dès qu'on parle d'exemple, on pense tout de suite à nos lacunes, nos erreurs, nos manquements, n'est-ce pas? Et des fois, on se dit, « Ouais, es-tu vraiment un exemple dans toute chose? » Mais j'ai découvert dans la Bible que même les gens en haute autorité, les gens qui ont écrit certains passages de la Bible, même plusieurs passages de la Bible, comme le roi David, le roi Salomon, ont eu leur propre manquement. Mais ils étaient des hommes de Dieu malgré tout. Ils ont eu des manquements, mais Dieu les a aidés. Ne cédez pas au découragement, frères et sœurs. Si parfois vous réalisez, vous prenez conscience de vos manquements, de vos erreurs, le diable est là pour nous décourager, nous accuser. Ah, t'es pas bon, t'es pas un bon chrétien, voyons donc. Essayez de nous abaisser. Non, si on demande pardon à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pardonne. Il nous purifie et on continue avec lui. C'est ça qui est merveilleux avec l'Évangile. Mais parfois, il faut se réconcilier avec la famille. Il faut peut-être faire les premiers pas pour se réconcilier avec un fils ou une fille, ou avec un conjoint. Aller vers l'autre. Frapper à leur porte. Et en tant que parent, on veut chercher à créer et à maintenir l'harmonie dans la famille. Soyons de ceux qui cherchent à rassembler plutôt qu'à désunir. Cependant, comme je réfléchissais à ça, je réalise qu'il y a de la souffrance dans le cœur de bien des parents face à leurs enfants ou leurs enfants. Surtout quand ils ne marchent pas dans les voies de Dieu. Ça nous attriste. Parfois même, c'est un fardeau. Il y a une souffrance qui est là qu'on ne peut pas ignorer. Mais on doit se souvenir des promesses de Dieu et les réclamer. Et voici deux promesses de Dieu dont j'aimerais vous montrer ce matin. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Amen. La deuxième promesse est celle-ci. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Pour les enfants, pour nos petits-enfants aussi. On réclame ces promesses-là devant le Seigneur, frères et sœurs. Le Seigneur dit quoi? Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Que ces paroles demeurent en nous. Au-delà de toute réalité qu'on peut percevoir. Souvent, on perçoit une réalité contraire. Peu importe. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une réalité aussi. La réalité du royaume des cieux. Elle est plus grande que la réalité sur cette terre. Alors, on doit réclamer ces promesses de Dieu. Souvenez-vous de la femme cananéenne, dont la fille était possédée par un démon. Et la femme, donc, est allée vers Jésus pour lui demander qu'il la délivre sa fille. Et elle criait, « Jésus, fils de David, aie pitié de ma petite fille! » Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a même pas répondu un mot. Il a continué son chemin. Il est dit, « Seigneur, renvoie-la, elle crie derrière nous, elle dérange! » Jésus dit quoi? « Oh, j'ai été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cette femme-là aurait pu virer de bord bien avant. « Ah d'accord, ok, je veux rien savoir de moi, c'est correct, vous m'arrangez mes troubles. » Non, elle a persisté, elle s'est prostrée devant le Seigneur. « Seigneur, aie pitié de ma petite fille! » Jésus dit quoi? « C'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de donner aux petits chiens. » « Oui, mais les petits chiens mangent les miettes. Puis... » Ta foi est grande. Vois qu'il te soit fait comme ta foi. Sa fille a été délivrée. Frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Si un de vos enfants ne suit pas le Seigneur, c'est parce qu'encore le diable les tient dans son étau. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Et j'ai un étau chez nous, puis quand je sers, là, ça sert. Mais la main de Dieu est plus grande que ça. Et quand on crie à Dieu, frères et sœurs, on réclame son intervention, la main de Dieu vient et desserre l'étau. Pour les libérer. Prions et croyons que l'étau va se desserrer et qu'ils vont être libérés. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Plus grand que celui qui est dans le monde. La femme cananéenne a eu gain de cause. Et j'ai pensé à Jacob aussi. Jacob était bien inquiet, bien anxieux. Il se retournait à son pays avec toute sa nombreuse famille. Son frère Ésaü s'en est devant lui avec 400 hommes. La dernière fois qu'il s'était vu, ça allait pas bien. Ésaü voulait tuer son frère. Jacob, 20 ans plus tard, était plutôt inquiet. Alors, il a mis tout le monde en sécurité, puis il a toutes des précautions pour envoyer des présents devant son frère pour l'amadouer, l'apaiser. Et là, il s'est trouvé tout seul dans la nuit. Et qu'est-ce qu'il dit? Un homme de Dieu est venu vers lui. L'ange de l'Éternel est venu vers lui. Il a commencé à lutter avec lui. Il a lutté pendant une partie de la nuit avec lui, jusqu'à ce que l'aurore arrive. Et là, l'ange voulait s'en aller. Jacob, non, je ne te laisserai pas aller, à moins que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Et Jacob, il est arrivé une chose qu'il ne s'attendait pas. Lui, il luttait pour sa famille, et une bénédiction supplémentaire. Le vieil homme a été brisé, et un homme nouveau a pris place. Jacob boitait, mais en boitant, intérieurement, il était libéré. Jacob, c'est trompeur, ça veut dire. Pour ne changer son nom pour celui d'Israël, celui qui est vainqueur, celui qui lutte avec Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu, frères et sœurs. Lorsque nous luttons avec Dieu, non seulement il peut se passer des choses pour notre famille, mais ça passe en nous aussi. Qu'on ne s'attend même pas, des fois. Jacob a commencé à être changé. Et voici ce qu'il dit ici. je ne te laisserai point partir avant que tu ne m'aies béni. Et je crois, frères et sœurs, que parfois, non pas parfois, tout le temps, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Non? Oui? OK. On va dire que vous êtes d'accord. Je vais prendre votre silence pour un, parce que vous êtes très attentif pour ça. Je ne te laisserai pas partir, Seigneur, à moins que tu m'aies béni. À moins que tu aies béni mes proches, que tu aies béni ma famille. Je ne te laisserai pas partir, Seigneur. Et si on est déterminé, comme la femme cananéenne et comme Jacob, on va à quelque chose. Mais il faut détermination. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Chapitre 11, vous connaissez ces versets-là. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne les voit pas. On les espère. Mais ça, c'est la foi. On en a comme l'assurance, la certitude. Et au verset 6, il dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia! Tout comme Corneille allait être récompensé, il cherchait Dieu. Dans la foi, il s'attendait à Dieu. Dieu fait encore plus que ce qu'il s'attendait même. On va voir ça tantôt, ça s'en vient. La foi, c'est le combat de la foi. Tenir ferme dans la foi. Lutter dans la foi. On a parlé des miracles, mais des miracles, il faut les combattre pour arriver à s'attendre à Dieu. Parce que les raisonnements sont souvent contraires. Parce que le monde voit les choses contraires aussi. Que la parole de Dieu puisse s'implanter en nous, frères et sœurs. Et la piété de Corneille allait être récompensée. Il a envoyé ses deux serviteurs, son soldat, sont allés chez Pierre, où il était à Joppé. Ils ont ramené Pierre, ses disciples ont accompagné Pierre. Et quand Pierre est arrivé chez Corneille, la maison était pleine de monde. Il avait invité ses parents et ses amis. Aimeriez-vous ça que ça vous arrive? Non. OK. Parce que je vais vous conter quelque chose. Le pasteur Jean Rulland, qui était pasteur à Rimouski pendant plusieurs années, les années 80, il évangélisait dans tout le Bas-Saint-Laurent. Et puis, il y avait une famille dans un certain village dont je vous oublie le nom, qui était convertie. Et puis, il avait pris une entente avec eux qu'un soir, ils viendraient avec, à l'époque, vous savez, les films, c'était des grosses bobines comme ça, avec des gros appareils, qui viendraient chez eux, il y avait une maison, un salon assez grand sûrement, et qui présenteraient un tel film d'évangélisation. Alors, les gens de la maison, les chrétiens, ont dit, oui, on va visiter du monde. Encore. Et quand Jardin est arrivé là, ce soir-là, il y avait 104 personnes dans la maison. Ils devaient en avoir que sur le toit de la maison, je pense. 104 personnes! Imaginez! Ils étaient loin de s'attendre à ça. Frères et sœurs, Dieu peut faire plus que ce qu'on s'attend. Amen! Corneille a invité ses parents, ses amis, ils sont venus en grand nombre. Et c'est pas tout. Attendez la suite de l'histoire. Alors, il est dit au chapitre 10 des Actes. Alors, c'est Pierre qui a commencé à prêcher, parce que Corneille dit maintenant, Pierre, prends la parole, vas-y. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Alléluia! Est-ce que Jésus est le même? Oui, parfaitement. Il est le même. Les mêmes choses peuvent arriver encore aujourd'hui. Pierre a apporté cette parole. Et cette parole, eh bien, je trouve qu'elle s'inspire de Isaïe 61. Parce qu'Isaïe 61 nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur, c'est une prophétie, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure ou un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébènes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Alléluia, j'aime cette parole-là, moi. De bonnes nouvelles. L'Évangile est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Les médias présentent pas mal de mauvaises nouvelles ces temps-ci. Oh oui. Mais on a une bonne nouvelle, nous autres. Alléluia. Et en fait, ce monde dans lequel on est, il est en... Il va pas bien. Il va pas bien. La Bible nous dit quoi? Que Dieu nous a laissé un royaume inébranlable. Toutes choses vont être ébranlées. Et la bonne nouvelle, c'est le royaume inébranlable. Alléluia! Cette bonne nouvelle qu'on va annoncer aux gens aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont besoin. Une bonne nouvelle. Ceux qui ont le cœur brisé par les conséquences de leur propre faute, par leur manquement, par les choses du passé qu'ils ont pu commettre. Comme cette femme pécheresse qui est venue aux pieds de Jésus, qui a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, qui a sué avec ses cheveux. Son cœur était brisé par sa vie passée. Maintenant, il est parti avec une vie nouvelle. Alléluia! Libérer les captifs. Le Seigneur n'a pas ouvert les portes des prisons romaines, mais a ouvert les cœurs, par exemple, de ceux qui étaient captifs du diable, ceux qui étaient pris par les choses de ce monde. Il le fait encore aujourd'hui. Une année de grâce. L'année de grâce, c'était l'année du jubilé. À tous les 50 ans, en Israël, il y avait vraiment une année spéciale. Le lendemain de la fête du jour des expiations, alors là, c'était la libération de tous les esclaves, les propriétés qui avaient été vendues par quelqu'un pour subvenir à ses besoins étaient rendues au propriétaire initial, gratuitement. Les dettes étaient effacées. Ça vous intéresse? C'est quand la prochaine année de grâce? Ça s'en vient dessus. En fait, frères et sœurs, l'année de grâce, elle commence l'année où on est de nouveau. Moi, elle a commencé en 1975, mon année de grâce. Puis elle se continue. Puis elle peut se continuer pour chacun d'entre vous. Puis si elle n'a pas commencé, elle va commencer aujourd'hui. Pourquoi pas? En 2019, l'année de grâce, c'est pour nous. C'est un nouveau départ, la nouvelle naissance, une vie nouvelle avec Dieu. Pas seulement savoir des choses faites de Dieu, mais le vivre, le connaître personnellement. Ça, c'est l'année de grâce du Seigneur. Pour consoler les affligés, le Seigneur Jésus dit quoi? Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va être à vos côtés pour vous fortifier, vous encourager à tenir ferme dans l'affliction. Pour leur donner une belle parure, un diadème, une couronne, au lieu de l'affliction et de la désolation. Une huile de joie. L'huile de joie, c'est pour des jours de fête. Il y a une ambiance. Dimanche passé, moi j'ai trouvé que c'était comme une grande fête de famille. Vous autres? J'étais vraiment béni, moi. Je suis encore ce matin, mais j'étais vraiment béni de ça. Une huile de joie, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La déprime, vous connaissez ça? Des fois, l'accablement, la louange, frères et sœurs, un remède à tout ça. Des térébintes. Alors, j'ai cherché sur Internet des térébintes. Je vais vous en montrer deux. J'ai pu trouver, en tout cas. Alors, ça, c'est semble-t-il, c'est des térébintes. En tout cas, c'est annoncé comme ça. C'est des arbres avec une racine profonde qui peuvent mesurer 10 mètres de haut et plus. Des arbres qu'on peut s'abriter à l'ombre de ces arbres-là. Et puis, ça évoque la vie. Ça évoque la croissance. Ça évoque tout ce que Dieu, la vigueur aussi, parce que les arbres, oui, sont en santé. Merci Seigneur pour cela. Qui veut ressembler à un térébinthe? Mais voici la diapositive suivante. Un térébinthe maganin. Il vient pas. Ça, c'est l'arbre en avant de chez nous. En fait, vous voyez peut-être pas, il y a une branche cassée là, mais il y en a une autre ici, là. Elle tenait parce qu'elle maintenant est tombée. Elle tenait juste par l'écorce. En fait, notre arbre mesurait peut-être 10 pieds de haut, mais cet hiver, les souffleurs ont travaillé avec zèle, avec enthousiasme, puis ont poussé en air. Et puis, je me console parce qu'il y a d'autres arbres plus maganés que ça sur ma rue. Mais des fois, on peut ressembler à un arbre avec une branche cassée. Parce que les coups durs de la vie, on les encaisse. Puis des fois, ça nous magane un peu. Mais heureusement, j'ai un bon remède. J'ai de la cire d'abeille. Alors, quand la neige va être fondue, parce qu'elle reste encore autour, là, je vais aller, je vais mettre de la cire d'abeille là où c'est cassé. Comme ça, les insectes ne pourront pas s'installer. La pluie ne pourra pas rentrer dans les branches. Puis ça va les protéger du soleil aussi, ce qui fait que l'arbre va guérir. Ses racines sont bonnes. Le Seigneur a un bon remède pour nous aussi. L'huile du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, alors il vient pour nous guérir. Il vient pour penser nos blessures et nous restaurer. Alléluia. Tant que nos racines sont en lui, frère et soeur, il n'y a pas de danger. On va survivre. Il va survivre lui aussi. Et là, il est arrivé une chose extraordinaire. Pendant que Pierre prêchait, avant même que les musiciens s'approchent, avant qu'ils fassent un appel, ils ont tous été baptisés de cet esprit, imaginez. Aïe, aïe. Même pas par un appel au salut. Chapitre 10, verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis étaient venus avec Pierre, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » Et il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur. Béni soit Dieu, frères et sœurs. Non seulement il était sauvé, mais en prime, baptisé de cet esprit. Et ça, le Seigneur nous l'a promis. Attendez à Jérusalem la promesse du Père. Jean-Baptiste a dit de quoi de lui? C'est celui qui vient après moi qui va vous baptiser de cet esprit et de feu. Jésus a dit quoi? Dit, attendez aussi. Qu'est-ce que la puissance d'en haut vienne sur vous? Frères et sœurs, et le signe de cela, c'est qu'ils ont parlé en des langues étrangères. Ça nous paraît un peu insensé à l'intelligence humaine. Mais ce qui est insensé à l'intelligence humaine est sagesse de Dieu. Et alors, ça vient sur nos vies. Et Dieu veut nous baptiser de cet esprit, nous tous ici, aujourd'hui, sans exception. Parce que la promesse, c'est pour tous ceux qui croient en aussi grand nombre que Dieu va les appeler. Pour tous ceux qui croient. Et ils entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alléluia. C'est la promesse du Père au jour de la Pentecôte. Paul dit aux Corinthiens, il encourage à parler à Dieu en d'autres langues. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Alors, Paul les encourageait à cela. Quand on parle en langue ou on parle en esprit, on s'édifie soi-même. Alors, on est en train de se bâtir. Même si je ne comprends pas là, il y a quelque chose de spirituel qui se passe en moi. Et c'est par la foi qu'on se dit ça. Tout simplement. Le Saint-Esprit ne parle pas à ma place. Il inspire ma prière. Et je n'ai pas besoin de me poser la question, quelle langue que je parle, ça n'a pas d'importance. Pour vous que je parle, que je laisse cela couler au travers de moi. Et Paul dit même aux Romains que dans notre intelligence, parfois, on ne connaît pas vraiment tous nos besoins, ni même les besoins cachés des autres. Que le Saint-Esprit va se servir de nous pour intercéder en faveur des autres et de nous-mêmes aussi. Et vous savez quoi? On a bien besoin du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Le diable est une puissance, le Saint-Esprit en est une autre. On a besoin de la puissance de Dieu dans le combat spirituel pour remporter des victoires sur le diable et l'emprise qu'il a sur les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire ce que Jésus a dit. En Luc chapitre 11, il dit ceci. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? S'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Ben non. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il le donnera. On n'a rien à craindre, on n'a qu'à s'attendre à Dieu et ça va arriver. Il faut venir devant Dieu comme un enfant, avec la simplicité d'un enfant. Et le Seigneur va le faire, frère et soeur, c'est simple, ça vient tout simplement. Il n'y a pas autre chose qui va se produire. C'est ça qui va arriver. Corneille était un homme qui avait soif de Dieu. Un homme qui cherchait Dieu. Si nous avons soif de Dieu, si nous cherchons Dieu, eh bien Dieu va bénir au-delà de tout ce qu'on peut demander, frères et sœurs. Il va agir non seulement dans notre propre vie, dans la vie de notre entourage aussi. Peut-être qu'on ne le voit pas maintenant, mais on doit déclarer les promesses de Dieu, s'attendre à lui. Seigneur, tu l'as déclaré, je m'attends à toi, Seigneur. Dieu n'est pas menteur. Le diable est un menteur. Ah, mais non, c'était dit pour d'autres. C'est passé, cette affaire-là. C'est fini. Non, 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 au contraire. On doit repousser ces pensées-là, repousser ces propos-là. Il dit, au contraire, moi, je crois ce que Dieu dit. Ça, c'est un livre qui est vivant. C'est un livre qui est vrai. C'est un livre qui est puissant aussi. Pas parce que le livre lui-même, à cause du Saint-Esprit qui le rend vivant. Alléluia. Amen. Je vais demander aux musiciens de venir ce matin. Je vais me demander à ceux et celles qui le désirent, qui veulent réclamer le salut de leurs enfants. Pas seulement juste une petite prière comme ça, mais d'insister auprès de Dieu, comme cette femme cananéenne Seigneur, sauve ma fille. Ou comme Jacob qui luttait avec Dieu jusqu'au matin. Et Dieu a fait son œuvre. Frères et sœurs, Dieu veut le faire aussi dans nos vies. Dieu veut intervenir dans nos familles, pour nos proches. Peut-être un frère, une sœur, un père, une mère. Dieu veut intervenir pour les délivrer et les libérer. Parce que le diable les tient sous son emprise, mais son emprise est brisée à la croix. Alléluia! Si c'est ça que vous désirez, je vous invite à vous approcher pendant que vous chantez un chant. Si vous avez besoin dans votre cœur d'une guérison de la part du Seigneur, peut-être qu'il y a une branche ou deux de cassée et que vous cherchez vraiment que Dieu intervienne pour qu'il vienne guérir votre cœur brisé, qu'il vienne vous consoler, peut-être guérir votre corps aussi qui souffre. Approchez-vous ce matin si vous le désirez. On va prier avec vous. Et puis si vous cherchez aussi la puissance du Saint-Esprit, celle que Dieu accorde à ceux qui croient, approchez-vous également, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est disponible aujourd'hui même. Il est à l'œuvre. Il fait son travail dans nos cœurs et nos vies. Venez maintenant pendant qu'on va chanter un chant et attendons-nous à Dieu, frères et sœurs. Si vous restez à votre place, soyez en prière également. Priez avec ceux et celles qui sont là en avant. Croyez que Dieu va se manifester. On a chanté ce matin le Dieu des miracles. On veut s'attendre aux miracles de la part de Dieu. On veut s'attendre à des victoires de la part de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Approchez-vous si vous voulez. Nous allons prier ensemble. Croire Dieu pour de grandes choses aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il veut se manifester parmi nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia.